Louange et remerciements au Seigneur. Nous avons déjà entendu les précieuses paroles de Dieu. Chaque parole nous va profondément au cœur. Et déjà dans la parole d'introduction, j'ai dû penser à ce qu'il s'agissait de tomber sur sa face, de ce qu'il s'agissait d'une adoration. Nous sommes parfois assis et nous ne pouvons même pas chanter dans le recueillement « Tu es digne, tu es digne ». Mais là, ils se sont jetés par terre et tous ceux qui étaient dans le ciel et sur la terre pouvaient adorer. Et il m'est venu à l'esprit, quelle serait la véritable adoration devant Dieu? L'adoration qui l'atteint, qui arrive à lui, les prières qui arrivent à son trône, qui ne sont pas seulement entendues ici sur terre, mais qui arrivent là-haut. Et comme nous l'avons entendu, des prières des saints étaient rassemblées dans des coupes, de fumée ou d'encens, pour être présentées devant le trône de grâce de Dieu. Et il est dit tout simplement, ce sont les prières des saints. Elles ont été recueillies afin d'être déversées là, devant le trône de la grâce. Il s'agissait des prières de ceux qui avaient trouvé grâce devant Dieu. Et ces prières ont été ramenées au trône de la grâce. La troupe rachetée a le privilège et l'accès à Dieu pour y apporter des prières. Oui, les prières qui sont ensuite remises là où elles doivent être, c'est-à-dire là où la grâce a son origine. Et là où la grâce est devenue effective ou agissante. Et de là viennent les prières qui retournent ensuite, à savoir au trône de la grâce. Et si à cela nous voulons citer la parole du Seigneur tirée du prophète Ésaïe, là il est dit, le Seigneur parle, Ésaïe 55, verset 11. « Ma parole ne retourne pas à vide à moi, mais elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. » Elle part du trône et vient sur la terre et accomplit parmi le peuple de Dieu ce que Dieu a décidé de faire. Et elle retourne ensuite, mais pas vide. Mais elle retourne avec les prières de remerciement provenant du cœur de ceux en qui la parole de Dieu a pu agir. Et elle monte alors avec les prières. Et elles sont rassemblées et déversées devant le trône de la grâce. Permettez-moi de mentionner ou d'insister encore une fois sur le fait que ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu écoutent sa parole. Elle accomplit en eux ce pourquoi elle a été envoyée et leur prière de remerciement retourne avec sa parole. Elles sont déversées là, au trône de la grâce, et le Seigneur se souvient de nous et il nous écoute. Dans cette parole de 2 Rois, chapitre 4, verset 29, nous avons l'étrange événement que particulièrement les disciples des prophètes ont fait la chose qui a conduit à la mort. Ils ont préparé un repas qui a causé la mort de ceux qui l'ont mangé. Ça aurait été les disciples d'un sacrificateur ou de n'importe qui d'autre qui l'aurait fait, nous n'aurions rien dit. Nous l'aurions oublié. Mais c'était des disciples de prophètes. qui étaient instruits par Dieu, qui étaient sous la proclamation de la parole prophétique. Et curieusement, cela s'est produit juste après que le garçon de cette veuve a été ressuscité des morts. L'enfant à qui Géasi a imposé le bâton d'Élisée au chapitre 29. Et il n'y avait pas de bruit. Mais ensuite, le prophète vint et Dieu l'a béni. Et Dieu l'a utilisé. Il a remis le fils dans les bras de sa mère et elle était heureuse. Et après cela, nous lisons de la famine. Et c'est très indicatif. Car dans Amos chapitre 8, il est effectivement écrit, si je ne m'abuse, au verset 11, que Dieu enverra la faim dans les derniers jours. Non pas une famine de pain ou une soif d'eau, mais une famine d'entendre, d'entendre les paroles du Seigneur. Et c'est justement lorsqu'il y a la faim que les gens ont tendance à manger n'importe quoi, quel que ce soit. Alors que c'est justement à ce moment que nous devrions être prudents. Nous tous qui appartenons à l'ancienne génération, qui avons connu les mauvais moments et les mauvaises années, nous savons qu'en temps de famine, tout était servi sur la table. Aujourd'hui, nous aurions froid au dos et nous ne saurions pas si nous mangerions encore une fois ce que nous avons mangé en ce temps. Une famine était dans le pays. Il semble que l'ennemi a séduit une personne pour mettre quelque chose dans le pot afin d'empoisonner toute la chose. Car ce n'était rien d'autre qu'un empoisonnement. Cela ne pouvait pas être mangé. Et celui qui en mangeait mourait. Et je vous dis, celui qui terrestrement ou naturellement est empoisonné et meurt, alors on peut dire qu'il est à plaindre. Mais celui qui est empoisonné spirituellement au temps de la famine, au temps où Dieu a envoyé sa parole prophétique, un tel homme, il est à plaindre. Alors qu'ils reviennent à Dieu et à sa parole et qu'ils comprennent ce qui s'est passé ici. Si vous lisez bien l'histoire, et toute écriture est inspirée de Dieu et utile à l'instruction et à l'exhortation, alors il est dit qu'ils ont de nouveau appelé l'homme de Dieu, à savoir le prophète. Et ils se sont écriés, il est écrit, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » 2 Rois chapitre 4, verset 40. Ils pouvaient donc se rappeler que personne d'autre ne recevra d'instruction ici et que personne d'autre ne peut être utilisé par Dieu pour désintoxiquer toute cette histoire, si ce n'est celui à qui Dieu, la parole de Dieu a été donnée dès le début. Et c'était le prophète Élisée. Et ils ont dit à l'homme de Dieu, la mort est dans le pot. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas en manger. Ils ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand je pense aujourd'hui à tout ce que les gens avalent, spirituellement parlant, sans s'en rendre compte. À l'époque, ils se sont rendus compte dans 2 Rois chapitre 4. Et pour eux, il y avait de l'espoir. Pour eux, il y avait de l'aide. Pour eux, il y avait le salut et la miséricorde de Dieu. Alors, il est dit au verset 41. Alors, Élisée dit, apportez la farine. Et vous pouvez consulter l'Ancien Testament dans le livre de Lévitique. La farine a été offerte en sacrifice devant l'Éternel comme offrande de nourriture. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'une nourriture qui devait être mangée, mais qui était devenue immangeable. Il y a mis de la farine et tout est rentré dans l'ordre. Il avait reçu un ordre du Seigneur et il dit, apporté de la farine. Et il a mis dans le pot, et puis il dit, maintenant, servez-le aux gens afin qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de nocif dans le pot. Vous voyez donc que la mort dans le pot, c'était l'empoisonnement. Amen. C'était l'empoisonnement, la chose nocive qui y était entrée. C'est la chose. Et après que cet homme de Dieu, sur ordre, instruction de Dieu, ait mis la farine dans le pot, il dit, servez-le maintenant à tout le monde afin qu'il mange. Et il n'y avait plus rien de nocif dans le pot. Que Dieu puisse accorder véritablement sa grâce, plus de grâce que nous n'en méritons, plus que ce que nous ne demandions et que nous ne pouvions demander. Oui, autant que nous en avons besoin, et nous en avons besoin beaucoup, vraiment beaucoup. Et nous pouvons dire avec Jean, de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Jean chapitre 1, verset 16. Et ce n'est pas autre chose. En lisant dans Apocalypse chapitre 4, j'ai pensé à la parole de l'Ancien Testament qui est parallèle à elle. Dans Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 3. C'est une parole très particulière, une parole spéciale. Ici, dans le prophète Ézéchiel au chapitre 1, il est dit déjà au verset 1, verset 1 qui est d'une importance capitale et qui donne des informations sur tout ce qui va suivre. Il est dit, la 30e année, le 4e mois, le 5e jour du 4e mois, alors que je me trouvais parmi ceux qui avaient été amenés en captif près du fleuve Kébar, le ciel s'ouvrit et je vis une vision divine. L'accent peut être mis ici sur deux ou trois choses. Le prophète a été amené vers les exilés. C'est le point 1. Non pas vers ceux qui étaient libres, mais vers le peuple d'Israël en exil. C'est le point numéro 1. Le second point, le ciel s'ouvrit. Et le troisième point, et je vis des visions divines, ou une vision divine. C'est là qu'il faut insister, pas seulement une vision, mais une vision divine. Vision d'une importance pour le plan du salut, visions qui ont été écrites dans la Bible pour ton instruction et pour la mienne, afin que nous connaissions la volonté de Dieu. Si nous lisons plus tard dans Apocalypse, au chapitre 4, à partir du verset 1, nous y trouvons presque les mêmes paroles. Jean a vu les cieux ouverts. Et il fut ravi en esprit, et il vit les choses que Dieu lui révélait. Ce prophète Ézéchiel a été amené vers ceux qui étaient en exil. Amen. Et le ciel s'est ouvert. Oui, et il a vu une vision divine. Et nous savons bien que l'Église du Seigneur, oui, était aussi dans une sorte de captivité spirituelle. Que ce soit d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu a fait grâce. Il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes et à notre sort, mais il a envoyé son prophète. Il a ouvert le ciel. Il a donné des visions divines et la révélation de sa parole et la révélation de son esprit pour que tous ceux qui écoutent la voix de Dieu puissent sortir et être secourus. Et lorsque nous lisions dans Apocalypse chapitre 4 des quatre êtres vivants, Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il est déjà question de quatre êtres vivants dans Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 5. Ézéchiel chapitre 1, verset 5. Au milieu de lui apparut alors quelque chose qui était semblable à quatre êtres vivants, dont voici l'aspect. Ils avaient une forme humaine. Verset 6. Mais chacun d'eux avait quatre faces et chacun d'eux avait quatre ailes. Verset 7. Leurs jambes étaient droites, mais la plante de leurs pieds était comme la plante des pieds d'un veau, et ils scintillaient comme du cuivre. Sous leurs ailes, il y avait des mains d'hommes sur les quatre côtés. Et les quatre avaient des ailes. Verset 9, des ailes dont l'une touchait toujours l'autre. Leur face ne se retournait pas quand ils marchaient, mais ils allaient chacun tout droit. Leur face, verset 10, avait l'apparence suivante. Devant, une face d'homme. À droite, une face de lion chez tous les quatre. À gauche, une face de taureau chez tous les quatre. Et en arrière, une face d'aigle chez tous les quatre. Comparez cela avec ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 4. Exactement la même description. Exactement les quatre êtres vivants tels que le prophète Ézéchiel les a vus ici bien, bien plus tôt. Oh, chez Dieu, toute chose était déjà arrêtée depuis longtemps. Le plan de salut de Dieu ne commence pas seulement dans le Nouveau Testament. Déjà, les prophètes avaient vu à l'avance. Ils ont vu toutes ces choses dans des visions divines et les ont mis par écrit. Le ciel s'est ouvert à eux et nous aussi, nous pouvons nous tenir sur un ciel ouvert. Oui, ouvert, recevoir, accepter par grâce ce qui a été dit et révélé dans une vision divine. Savez-vous, je ne savais pas que cette parole serait lue ce soir. Et je n'ai absolument rien lu de la Bible aujourd'hui, pas un seul verset, toute la journée. Mais j'ai bien réfléchi à telle ou telle parole. Mais j'ai expressément, je n'ai rien lu du tout pour ne pas venir dans la réunion d'une manière ou d'une autre et me sentir obligé de lire ce que j'avais déjà lu. Mais une chose m'a ému intérieurement, m'a touché intérieurement. J'ai dû réfléchir au fait que les hommes s'attachent aux hommes. L'un d'une certaine manière et l'autre d'une autre manière. Et si je peux lire ici, et comme nous pouvons tous lire, que des hommes de Dieu ont vu des visions divines et ils les ont communiquées au peuple de Dieu, alors ils n'ont pas attaché les hommes à eux-mêmes. Ils n'ont pas rendu les hommes dépendants d'eux-mêmes, mais ils ont lié, connecté des hommes à Dieu et les ont rendus dépendants de Dieu. Et en cela se révèle toujours de qui viennent les choses. Si elles viennent de Dieu, elles nous mettent en relation avec Dieu, elles nous rendent dépendantes de Dieu. Et si elles viennent des hommes, elles nous rendent dépendantes des hommes et nous lient aux hommes. Mais si elles viennent de Dieu, elles nous rendent dépendants de Dieu et nous lient, nous connectent à Dieu. Et c'est en fait ce que nous souhaitons avoir. Un lien avec Dieu, un lien à Dieu. Être lié à lui, à Dieu. S'attacher à lui. Être un esprit avec lui. Comme Paul l'a exprimé aux Corinthiens. Ici, au chapitre 13, dans le prophète Ézéchiel, il nous est dit, au verset 17, « Toi, fils de l'homme. Toi, fils de l'homme, présente-toi devant les filles de ton peuple qui se comportent comme des prophétesses à leur guise. Parle contre elles et dis, ainsi a parlé Dieu le Seigneur, malheur aux femmes qui coupent des bandelettes magiques pour tous les poignets et qui fabriquent des voiles pour les têtes, pour toutes les parties du corps, afin de capturer les âmes. Vous voulez tuer des âmes qui appartiennent à mon peuple et vous voulez garder vos âmes en vie. Oui, pas le Seigneur. C'est ce que font ceux dont il est question ici. Et c'est une parole vraie. C'est aussi vrai que Dieu l'a dit. Vous voulez tuer des âmes. Nous avons lu ici dans 2 Rois chapitre 4. La mort est dans le pot, verset 40. Quand est-ce que la mort est dans le pot? Quand on y met ce qu'on a cherché et trouvé quelque part. Alors la mort est dans le pot. Et tous ceux qui en mangent seront empoisonnés et ils meurent spirituellement. Et ici, Dieu a interpellé le prophète, l'homme qui a vu vision divine. Et Dieu lui dit, prophétise. Oui, c'est une chose. Mais prophétiser contre ceux qui ont prophétisé, c'est quelque chose de très fort. Mais Dieu lui a commandé de le faire. Et il est dit ici, oui, nous sommes au verset 17. Celle qui cousent des bandelettes magiques pour tout. Amen. Ils ont pour tout une excuse, un discours qui convient. Ils savent toujours exactement ce qui doit être dit. Et puis, voici la misère. Pour attraper des âmes. Vous voulez tuer des âmes qui appartiennent à mon peuple. Et vous voulez garder en vie vos âmes. Ils savent très bien là où il faut dire ou faire quelque chose. Mais Dieu va changer tout cela. Dieu changera tout cela. Il doit le faire. Et il est dit au verset 19, « Vous m'enlevez ma sainteté auprès de mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, pour tuer des âmes qui ne doivent pas mourir et pour garder en vie d'autres âmes qui ne doivent pas rester en vie, tout en mentant à mon peuple qui écoute volontiers les mensonges. » Oui, c'est incompréhensible. Nous qui témoignons d'être de la vérité, on devrait dire de nous, mon peuple qui est de la vérité, amen, écoute avec joie la vérité. Mais ici, il est dit, vous qui mentez à mon peuple, qui écoute avec joie les mensonges. Là déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui est de la vérité, dit le Seigneur dans Jean chapitre 11, il écoute les paroles de la vérité. Et Jean écrit, celui qui est de la vérité nous écoute. 1 Jean chapitre 4 verset 6. Et ici, il nous est dit quelque chose de complètement différent. Vous savez, les choses n'ont pas encore changé. Les temps vont et viennent. Mais dans le domaine spirituel, rien n'a changé. Mais Dieu accordera la grâce que les siens demeurent fidèles dans la parole révélée. Que rien ne soit ajouté à ce que Dieu a dit, sinon la mort est dans le pot. Et celui qui en mange n'en bénéficiera pas. Ces personnes à cette époque avaient encore une bonne conscience. Ils ont tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas lorsque la nourriture est arrivée dans leur palais ou dans leur langue. Ils avaient encore un discernement. Oui, amen. Ils avaient encore un discernement. Que Dieu nous accorde à toi et à moi le discernement pour savoir si quelque chose a été introduit quelque part et que nous devrions le manger. Et on a beau le remuer et préparer quelque chose, mais si nous y avons mis quelque chose, alors la mort est dans le pot. Et alors, il faut s'en détourner et revenir à la parole de Dieu telle que le Seigneur l'a prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Et nous l'a conservée et nous l'a révélée par grâce. Il y avait encore quelque chose dans Apocalypse chapitre 4 qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup remué, ému. Et je voudrais déjà donc de toutes les façons conclure. Ici, cette adoration, je l'ai déjà mentionnée. Mais je pense que nous devrions au moins nous tenir debout lorsque nous chantons « Tu es dit » afin de chanter là aussi avec respect, avec crainte envers le Seigneur. Je l'ai vraiment eu dans mon cœur. S'ils se sont jetés face contre terre à ce moment-là, nous devrions au moins nous lever. Et il est dit ici que les quatre êtres vivants étaient couverts d'yeux tout autour et criaient sans cesse jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était et qui est et qui vient. » Apocalypse 4, verset 8. « C'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui a envoyé ses prophètes dès les temps anciens, qui a ouvert le ciel sur eux, au-dessus d'eux, et qui leur a donné d'avoir part aux visions divines. Et si vous voulez bien, après avoir ouvert Apocalypse chapitre 4, le premier verset, peut-être en partie, oui, je lis le premier verset tout en entier, et il est dit ici, verset 1, « J'eus alors une vision, et je vis comme une porte ouverte dans le ciel. » Et la première voix que j'entendis me parler comme le son d'une trompette m'appela et me dit, monte ici et je vais te faire voir. Un Jean a dû attendre longtemps. Tous les autres apôtres étaient déjà auprès du Seigneur. Et à l'extérieur, nous aurions pu dire que cet homme devrait encore parcourir un chemin si difficile. Il a été mis en exil parmi les bêtes sauvages de l'île de Patmos. Mais qu'est-ce que c'était? C'était la prédestination. Oui, c'était la destinée que le Dieu Tout-Puissant a voulu pour lui. Cet homme a été utilisé pour nous transmettre ces choses. Tous les enfants de Dieu ne sont pas des prophètes. Mais tous les enfants de Dieu ont accès à ce que Dieu nous a dit par les prophètes et ce qu'il nous a révélé. Nous n'avons pas besoin d'être des prophètes et encore moins de nous comporter ou de nous présenter comme tels. Mais l'important est que nous recevions la parole prophétique. Il me suffit qu'un homme envoyé, utilisé par Dieu, oui, se présente. Un homme à qui ces choses ont pu être révélées. Et si j'entends plus tard et que je reçois dans la foi, et si Dieu me les révèle par son esprit, alors aujourd'hui, révélé par l'esprit, je verrai la même chose que Jean a vu en ce temps. Et il est dit ici, le verset que nous avons déjà mentionné, le verset 9, il est dit, « Et chaque fois que les quatre êtres vivants offrent des louanges, des honneurs et des remerciements à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit de toute éternité. » Oui, verset 10, « Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit éternellement. Et ils déposent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, et la puissance, car tu as créé toutes choses, Et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées. Amen. Nous voyons que les 24 vieillards ne sont pas restés inactifs sans rien faire lorsque les quatre êtres vivants ont commencé à rendre gloire, honneur et remerciement à celui qui était assis sur le trône. Mais ils se sont prosternés et ont aussi adoré. Nous aussi, nous ne pouvons pas faire autrement que d'adorer quand il y a l'adoration. Oui, nous ne pouvons pas faire autrement que de remercier quand il est temps de remercier, que de glorifier et de louer le Seigneur quand il est loué et glorifié. Nous avons donc prenons donc part à la même grâce. Oui, nous avons part à la même parole. Et c'est pourquoi, comme nous voyons ici, un accord total. Et de la même manière, nous devons le vivre déjà maintenant ici sur terre. Et cela ne m'étonnerait pas que Dieu établisse un lien entre les rassemblements de son peuple et la gloire. Et que tout puisse s'accorder, s'imbriquer. Amen. Car, voyez-vous, les quatre êtres vivants sont venus plus tard, ou ont été en action plus tard, lors de l'ouverture des quatre premiers sceaux. Nous ne voulons pas entrer en détail dans ces choses. Mais lorsque d'une manière ou d'une autre, Dieu a tout planifié et conduit de telle sorte que, comme Paul l'exprime aux Éphésiens, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, que tout cela soit réuni et rassemblé sous Christ en tant que chef. Alors, il ne nous reste donc plus rien d'autre que de remercier de tout notre cœur notre Seigneur et Dieu, et aussi de l'adorer. Ne l'oubliez pas, lorsque Dieu m'a parlé et t'a parlé, lorsque la parole de la prophétie qui est sortie du trône nous a saisis, toi et moi, alors elle nous a alors connectés à Dieu, c'est-à-dire à celui qui nous a parlé. Et j'ai aussi dû penser à cela aujourd'hui très brièvement. Dans les jours de Paul, il y avait des gens qui disaient « Je suis de Paul ». D'autres disaient « Je suis d'Apollos et moi de Pierre » ou de qui que ce soit, quel que soit le nom qu'on pouvait utiliser. Paul était celui qui a dit « Qui est mort pour vous ?» Ai-je donné ma vie pour vous? Afin que vous vous réclamiez de moi, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12 à 13. Il s'agissait des hommes charnels, qui n'avaient pas compris que de tels hommes n'agissaient qu'en tant que des instruments de Dieu. Et non pour lier des hommes à leur personne, mais pour mettre des hommes en relation avec le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire en ce temps de l'achèvement. Que son peuple ne soit pas lié à tel ou tel et qu'il ne dépende pas d'eux et ne soit même pas rendu esclave, mais que nous soyons liés, connectés à Dieu, que nous devenions dépendants de lui et que nous recevions la connexion à lui. Alors, il fera toute chose. Si toi et moi, nous sommes liés à Dieu, alors nous sommes liés ensemble, les uns les autres, dans le lien de l'amour divin, et c'est le lien de la perfection, selon Colossiens 3, 14. Et rien, ni personne, ne nous séparera de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les prophètes ont vu des visions divines liées au plan du salut. ces visions ont été mises par écrit. Et nous avons dans ce temps le grand privilège de connaître ces choses, d'y plonger nos regards, oui, dans ces choses, amen, que beaucoup d'autres n'ont pas vu et n'ont pas entendu. Que cela puisse avoir créé en chacun de nous un lien avec Dieu et que cela puisse nous détacher de tout autre lien. Et vous ne me croirez peut-être pas ce soir, mais la plupart des croyants sont dans une situation de dépendance. Ils sont soumis à ceux qui règnent sur eux. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, cela ne devrait pas en être ainsi. Nous voulons tous dépendre uniquement de notre Seigneur et Sauveur et avoir le lien, la connexion avec lui seul. Et si nous l'avons, si nous avons cette connexion, toi et moi, nous tous, et avec nous tous, tous les enfants de Dieu, nous n'avons besoin de rien d'autre. Alors nous sommes aussi liés les uns aux autres. Que Dieu puisse nous bénir, qu'il nous accorde la grâce d'avancer dans la foi, et vous verrez que la fin sera couronnée. Amen. Il ne nous reste rien d'autre qu'à faire. Oui, il ne nous reste rien d'autre à faire que de persévérer jusqu'à la fin pour faire partie de ceux qui recevront alors la couronne de la vie. Et un jour, il se peut qu'il nous arrive ou qu'il nous arrive comme ce qui est arrivé aux 24 vieillards. Oui, quand ils ont pu enlever leur couronne et les ont déposées en disant « toi seul, tu es digne ». Ils ne se sont pas jugés dignes de garder sur leur tête les couronnes qu'ils ont reçues. Oui, ils ne se sont pas rendus trouvés dignes de garder ces couronnes dans la présence du Seigneur leur Dieu. Et ils ont dit, toi seul, tu es digne. Et ils ont ôté et déposé leur couronne. Qu'il puisse en être ainsi pour toi et pour moi. Mais une chose est certaine, lui qui a porté la couronne d'épines, lui, il est le seul qui est digne d'être couronné. Le seul qui était digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Le seul qui est digne de révéler sa parole et sa volonté à ceux qui lui appartiennent. Que sa bénédiction, d'une manière particulière, repose sur nous tous. Au milieu de ce temps de famine spirituelle, Dieu a préparé une nourriture. Personne, et surtout pas les disciples des prophètes, c'est d'eux que j'ai la plus grande crainte. Je n'ai aucune crainte des personnes simples. Ils ne mettent rien de malsain dans le pot. Et s'ils y jettent quelque chose, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mais quand des disciples et des prophètes y mettent quelque chose, alors j'ai bien mes peurs. Que quelque chose y soit mis, qui n'y ait pas sa place. J'ai bien peur qu'un empoisonnement ait eu lieu. Si tu mets quelque chose, cela ne fait rien. Aucun mal, cela ne fait rien à la nourriture. Mais garde si quelqu'un vient avec une inspiration. Alors, tout est différent. Et c'est le moment où nous devons faire attention et veiller. Mais Dieu préservera les siens. Je suis sûr et je le sais. Comme cela a été le cas en ce temps, il en sera certainement le cas dans ces jours. Si nous revenons et disons « Seigneur », comme tu l'as dit par la bouche de ton prophète, nous le laissons ainsi. Alors vous verrez le rétablissement et tout le monde pourra à nouveau manger. Et il n'y aura plus de mort dans le pot. L'empoisonnement disparaîtra. L'empoisonnement n'est pas venu par le prophète ou par ce qu'il avait à faire de la part de Dieu. Mais l'empoisonnement est venu par les disciples. C'est là que réside la détresse. Que Dieu puisse vraiment nous aider, toi et moi, afin que nous soyons véritablement aidés. Loué soit son Saint-Nom. Amen.